Le danger le plus sérieux qui menace le christianisme n'est pas le bouddhisme. Ce n'est même pas l'islam. En fait, ce n'est aucune des religions dont nous avons parlé déjà. Ce n'est pas non plus le simple athéisme. Bon, l'athéisme devient de plus en plus populaire en France. Je ne sais pas si vous suivez les sondages. Mais l'athéisme n'a aucune tradition, aucun esprit du corps, aucun sens de communauté. C'est une idéologie assez sèche et impersonnel. Les derniers sondages disent que 70% des Français sont incroyants. Bon, je précise, à peu près 35 sont des athées purs et durs, hein, des athées convaincus. 35% se disent croyants. Mais ça change absolument rien dans leur vie. C'est de ces gens-là qu'on va parler maintenant. Parce que la religion qui constitue, à mon avis, le plus grand danger pour le christianisme aujourd'hui, c'est une religion que nous croyons morte et enterrée depuis des siècles. C'est le paganisme. Il y a deux paganismes. Il y a le paganisme de l'Antiquité et il y a le paganisme moderne. Le néo-paganisme. Ce qui les réunit tous les deux sous le même vocable, le même nom, c'est une vague religion populaire sans aucune révélation divine. Aucun credo révélé, aucun code révélé, aucun culte révélé. C'est tout simplement la religiosité naturelle de l'homme déchu, la voie large et spacieuse. Ah, ça, c'est les Français, les 30% des Français qui se disent croyants. Hein, en quoi est-ce qu'ils croient? Et quoi? À la religiosité naturelle. Le paganisme est vu de la campagne. Vous savez le mot latin qui nous donne païen en français? En anglais, ça donne pagan. Paganus, ça veut dire paysan. Mais pourquoi traiter ces pauvres paysans, ils travaillent dans les champs, dans la campagne, pourquoi les traiter de païens? Parce qu'à l'époque de l'Empire romain, les paysans sont les derniers à abandonner leur religion païenne ancestrale, leur tradition, pour adopter le christianisme. Donc on appelait, c'est les derniers convertis, donc on les appelait païens. C'est un peu ironique, parce qu'aujourd'hui, c'est les paysans qui sont les derniers à abandonner le christianisme pour rejoindre le paganisme qui est florissant dans les grandes villes. Le vieux paganisme, à mon avis, dépasse en grandeur de très loin le paganisme moderne. Toute l'histoire spirituelle de l'Occident peut être résumée dans cette phrase de J.K. Chesterton. Il est très citable. Le paganisme était ce qu'il y avait de plus grand dans le monde. Il parlait du paganisme de l'Antiquité. Le christianisme était encore plus grand. Tout ce qui est venu par la suite a été plutôt minable en comparaison. Pourquoi est-ce que je dis que le paganisme de l'Antiquité est supérieur, plus grand que le paganisme d'aujourd'hui? À cause de trois éléments que possède l'ancien paganisme, mais qui sont absents dans le nouveau paganisme. Le premier élément qui faisait la grandeur du vieux paganisme, c'est la piété. La piété. La piété, c'est l'instinct religieux qui pousse l'homme à respecter quelque chose qui est au-dessus de lui, à reconnaître sa place subordonnée dans l'ordre des choses. La piété dans la Bible, on peut lui donner une définition plus précise, c'est le désir d'accomplir tous ses devoirs envers Dieu. C'est ça. L'apôtre Paul arrive à Athènes et dit, je vois que vous êtes pieux. Hein? Je vois que vous voulez accomplir vos devoirs envers les dieux. La vertu de la modération, de la tempérance, accompagnait souvent dans l'Antiquité cette piété. Vous savez ce que c'est un fronton de temple, hein, c'est la partie comme ça. Au fronton de chaque temple d'Apollon dans l'Antiquité, il y avait deux devises. Connais-toi toi-même, rien à l'excès. Hein, c'est la vertu de la modération. Cette attitude-là de modestie, de respect, c'est le contraire de l'arrogance effrénée du néopaganisme aujourd'hui dans l'Occident. À notre époque, c'est surtout les sociétés orientales qui ont ce genre de discrétion. Je veux dire, Prisca et moi, si vous nous connaissez, vous savez qu'on est des fanatiques de musées archéologiques et de sites archéologiques. Parfois, on était dans des pays, en Italie et d'autres pays. Et parfois, lors de nos visites, nous rencontrons des groupes scolaires. Quand c'est des Français, on se dit, ne parle pas le français. Ils sont touche à tout. Ils courent dans tous les sens, ils grimpent sur les statues, ils font n'importe quoi. Ils donnent l'impression, tout est à nous. Rien n'est sacré, on a le droit à tout. Et puis les Japonais arrivent. Pas un seul mot. Ils sont en rang. Ils écoutent. Quel contraste. Hein? L'Occident comprend cette réserve respectueuse. Ah, ça s'est démodé. Hein? C'est vieillot, cela. Le nouveau paganisme cherche à diviniser l'homme. L'homme devient le nouveau Dieu. Le néopaganisme a pour but, non seulement Dieu, l'homme et Dieu, mais le néopaganisme veut remplacer le ciel par un paradis terrestre, construit par l'homme lui-même, en dehors de Dieu. Un paradis socialiste, un paradis capitaliste, un paradis technologique, un paradis scientifique. Vous mettez l'adjectif que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas de Dieu là-dedans. Et ça, le paradis, l'utopie que l'homme moderne cherche à faire. C'est son projet. Nous participons à ce projet malgré nous. Vous savez ça? Hein, quitte à aller vivre au centre Bonnefoy pour le restant de nos jours, nous serons un peu condamnés à participer à ce projet de la société. Créer une utopie où la maladie, la souffrance et même un jour la mort sera vaincue. Mais sans Dieu. Ça, c'est le projet du néopaganisme. Le deuxième élément du vieux paganisme qui manque dans le nouveau, c'est une morale objective absolue. Pour l'homme prémoderne, qu'il soit chrétien ou pas, hein, qu'il soit païen, chrétien, n'importe. Les lois morales étaient de nature absolue, rigide, indiscutable, non négociable. Et elles étaient objectives. On les découvrait. On ne les inventait pas. C'est pas l'homme qui a inventé ces règles. L'homme les découvre. Ces règles appartenaient à l'ordre de la création. À l'ordre des choses. La réalité de l'univers, ce qu'est l'univers, la réalité de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Le néopaganisme est relativiste, subjectiviste et pragmatique. Il prétend que nous créons nous-mêmes nos propres valeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de loi morale. On parle de valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs, c'est beaucoup plus facile à changer. C'est pas immuable. Une loi, c'est trop rigide. Une valeur, c'est très mou. Cette loi est écrite non pas sur le cœur humain, mais par le cœur humain. L'homme moderne ne découvre pas ses valeurs, il les invente. Il les crée lui-même. Il ne reconnaît aucune révélation divine. Pourquoi? Parce qu'une révélation divine peut contredire ses propres valeurs. Hein? Peut contredire ce que lui, il a décidé. Là, on est en plein jardin d'Éden. Adam et Ève. C'est maintenant eux, c'est Adam et Ève, qui déterminent ce qui est bien et mal. C'est plus Dieu. C'est Adam et Ève. Et personne n'a le droit de juger les valeurs d'un autre. Hein, c'est privé, c'est subjectif, c'est irrationnel. La raison n'a pas sa place. On ne peut pas utiliser la raison pour juger les valeurs de quelqu'un d'autre. Parce que ces valeurs sont subjectives, absolument. Elles ne correspondent à rien qui existe en dehors de notre pensée. Autrement dit, bidon. Le verset préféré des néo-païens dans la Bible, ne vous posez pas en juge. Vous reconnaissez. Je ne comprends rien à ce que Jésus voulait dire dans ce texte, mais c'est ça, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger les valeurs subjectives de quelqu'un d'autre, parce qu'elles ont autant de valeur que vos valeurs subjectives que vous avez inventées. Ces valeurs inventées valent vos valeurs inventées, donc il ne faut pas les critiquer. Il s'agit aussi d'une forme de polythéisme. Le polythéisme, c'est l'existence d'une multitude de divinités différentes, de définitions différentes, une multitude de ce qui est bien et de ce qui est mal. Personne ne croit à Zeus. Vous pouvez venir à Marseille, vous pouvez chercher à Genève, dans le Bottin, vous ne trouverez aucun temple dédié à Apollon ou à Zeus. Peut-être, il y a peut-être bizarre. Mais... D'habitude, non. Mais il y a quand même le polythéisme qui prend la forme de relativisme et de subjectivisme. On n'a pas besoin de Zeus pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est nous qui disons ce qu'il faut faire. Nous sommes nos propres dieux. Et comme nous sommes beaucoup, c'est le polythéisme. Beaucoup de dieux. Nous ne suivons aucune loi. Nous faisons la loi. C'est nous qui créons la loi. Donc, deux ingrédients, la piété et une loi morale absolue. Troisième ingrédient que le vieux paganisme avait et qui manque dans le néopaganisme, c'est le sens du sacré. Le sens du sacré est un sentiment très fort. On parle de crainte, mais c'est plus fort que ça. C'est un genre de frayeur. C'est un genre d'effroi devant la majesté et la puissance de Dieu. Vous connaissez les chroniques de Narnia? Aslan n'est pas un lion apprivoisé. On ne peut pas le traiter, même pas Lucie. Ne peut pas faire ce qu'elle veut auprès de lui. Dieu est redoutable. Vous connaissez ce chant? Je crois que c'est un chant de Prisca. Dieu fort, redoutable et saint. On a chanté ça à une maison de retraite et il y a beaucoup de prêtres. Et un prêtre vient nous dire, il ne faut pas dire que redoutable. Ah bon? Dieu n'est pas redoutable, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît, la Bible. Dieu est redoutable. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Pourquoi la Bible répète cela? Parce qu'on l'oublie. Donc, c'est un sentiment très fort de crainte, d'effroi, d'émerveillement aussi. Parce que non seulement c'est pas la crainte d'un ennemi. C'est pas la crainte d'un vrai lion, papa d'Aslan. C'est une crainte émerveillée. C'est une crainte d'adoration. Faut commencer par là. Bon, les vieux païens avaient, ils adoraient des objets d'une très grande variété, depuis Zeus jusqu'aux vaches sacrées. Mais au moins, ils adoraient quelque chose. Ils reconnaissaient que quelque chose de plus grand qu'eux existait et qu'ils avaient une place subordonnée dans l'ordre des choses. Dans le monde moderne, ce sens, le sens du sacré, la pratique de l'adoration sont en train de mourir. Vous voyez ça, dans la religion moderne, a été démythifié, désurnaturalisé, il ne reste que des règles morales. Il n'y a pas de crainte du Seigneur quand il n'y a pas de surnaturel. Dieu n'est plus le Seigneur. Il est la force. Vous savez, cette série de films, je me souviens, ça fait longtemps, hein, vraiment longtemps. On n'avait même pas d'enfants. Et le premier film, La Guerre des Étoiles, est sorti. Et je me souviens, ça crée une sensation incroyable dans le monde. Mais c'est évident dès le départ, c'est un dieu hindou. La force est un dieu hindou. On peut l'utiliser pour faire le mal, hein, Dark Vador, ou le bien. Parce qu'il n'y a pas de mal ou de bien dans la force. Il n'y a pas de loi morale. Et donc le néopaganisme est comme ça, c'est un genre de panthéisme. Le panthéisme est une religion confortable. Il n'y a pas d'éléments complexes, difficiles pour nous déranger. Et ça convient parfaitement à l'homme moderne. Vous savez, la valeur numéro un de l'homme moderne, c'est le confort. Pas matériel. Le confort psychologique, intellectuel, qui confond avec la paix. Le confort psychologique, mes amis, ce n'est pas la paix qui dépasse toute intelligence. Vous savez ce que c'est la paix? C'est dommage, on devrait avoir le temps de faire l'évangile de Jean. La paix, dans la pensée de Jésus, vient de la connaissance de la vérité sur Dieu et sur lui-même. C'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment de bien-être, c'est pas un sentiment de tranquillité. Comme Bouddha, il voyait la sérénité sur le visage de ce moine hindou, il était impressionné. C'est pas nécessairement la paix, ça. La paix vient de la possession de la vérité. Lisez ça. Ça, c'est en Jean 13, 17. Si vous voulez lancer une nouvelle religion ou même un nouveau produit dans le commerce, vous allez engager un publicitaire, il va mettre tranquillité d'esprit, paix intérieure, et tout réjoui. Les gens cherchent ça, mais ils confondent la vraie paix avec le confort. Pourquoi est-ce que la force est si populaire, un dieu panthéiste? C.S. Lewis le dit dans son livre « Le miracle » ou son livre « Miracle ». Le Dieu panthéiste ne fait rien, n'exige rien, il est à votre disposition comme un livre sur une étagère. Il ne nous poursuivra pas. Le vrai Dieu vous poursuivra. Si vous ne connaissez pas un poème écrit par un Anglais, 19e siècle, c'était un drogué, un ivrogne, il vivait dans les égouts, dans la rue, et s'est converti. Et c'était un poète très doué, il a écrit un poème très long, très très long. Hein. Si vous achetez ce poème, c'est un bouquin anglais-français. Et le bouquin est comme ça, très émouvant. Il dit que tout au long de sa vie, il entendait des pas derrière lui. Le limier du ciel, c'est Dieu. Et il a Il a essayé d'éviter, il a couru dans les drogues, dans tout. Et toujours il entendait ses pas. Qui venait, qui n'abandonnait pas. Et finalement il dit, je m'arrête de courir. Et il se retourne, et c'est Dieu qui le poursuit. Lisez ce psaume, ce poème. C'est vraiment puissant. Ça s'appelle le limier du ciel. Thompson, c'est ça? Oui. Le limier du ciel. Vous pouvez trouver en googlant, comme disent les jeunes. Je crois qu'en parlant de ce nouveau paganisme, le nouveau paganisme a un avantage sur l'athéisme. Qu'est-ce que les gens cherchent quand ils se disent croyants? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi est-ce qu'ils ne se disent pas athées? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils sont. Il y a quelque chose dans la religion qu'ils cherchent. Le sens de la vie, même encore plus accessible, c'est la chaleur, c'est l'émotion, c'est le sentiment de la religion qu'ils cherchent. Mais ils ne veulent pas l'effroi de la religion. Ils ne veulent que des sentiments confortables. Ils ne veulent pas de la crainte du Seigneur. Le néopaganisme rejette fermement cette crainte. Et même la plupart, je mets entre guillemets, les experts de l'éducation religieuse, sont presque unanimes dans le monde francophone pour dire il faut extirper la crainte du Seigneur de l'esprit des enfants. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide de ma vie. C'est-à-dire, puisque moi on était à Montpellier et on enseignait dans la paroisse locale. Le prêtre nous a dit vous pouvez enseigner. Hein? Il dit mais j'ai une condition. Il faut enseigner ce qui est dans la Bible. On dit, bon, on peut accepter ça. Et ça marchait, le tonnerre, dans les classes. Les enfants, je crois que c'était CM. CE1. Ils buvaient l'évangile. C'est quoi CE1?
7-8 ans.
Ils apprenaient même des mots grecs. Quand on parlait de la résurrection, les yeux sortaient de la tête. On va ressusciter, c'est vrai. Ils étaient passionnés. Et ils rentraient, les parents disaient, c'est des mensonges, ça. C'est pas vrai, tout ça. Alors, je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous envoyez vos enfants étudier la Bible? Oh, pour qu'ils aient un peu de morale. Ah ben, il faut pas venir ici pour ça. Bon, c'est pas ce que j'allais dire. En fait, ça marchait bien dans les classes, mais quand on se mettait ensemble, il y avait des religieuses. Et une religieuse m'a dit, il fallait que Prisque me retienne. Hein. Je lui ai dit, fais pas. Elle m'a dit, oh non, il faut pas parler de la crainte de Dieu. Il faut parler de l'amour. Et c'est vrai, j'en dis, le vrai amour bannit la crainte. Mais il faut qu'il y ait une crainte à bannir. N'est-ce pas? Sinon, les enfants imaginent un Dieu nounours. Et dire, le Dieu nounours vous aime. Ça a beaucoup d'impact. Hein? Mais si vous dites, le Dieu parfaitement saint et tout puissant vous aime, cela devrait nous choquer. Il n'y a plus de choc. Sans la crainte de Dieu, il n'y a plus de choc dans la religion. Ne laisse jamais personne vous dire qu'il faut extirper la crainte du Seigneur de l'esprit des enfants. Non, il faut mettre cette crainte du Seigneur dans l'esprit des petits. Ils ont le temps de découvrir l'amour de Dieu. Si on commence par l'amour, désolé, Aucun impact. Aucun choc. Ah, d'accord, c'est bien. La crainte du Seigneur. C'est le thème de la retraite de l'ascension. C'est bien trouvé. Vraiment, quand on apprend que Dieu nous aime, le vrai Dieu, cela devrait nous choquer. C'est un coup de foudre. Le fait que le Dieu du néopaganisme nous aime, c'est une platitude dont la banalité est affligeante. Alors, le nouveau paganisme, voici la mauvaise nouvelle, est en train de l'emporter sur l'Église. Non pas en persécutant l'Église, mais en l'infiltrant. Il est plus malin que le vieux paganisme. Le vieux paganisme romain s'est imaginé que si on persécute les chrétiens, si on les jette au lion, ça va les intimider. Si on prend leur chef et les jette au lion, eh ben, les disciples vont se laisser intimider et renoncer à leur foi. Faux calcul. Tertullien dit, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Plus on nous tue, plus on se multiplie. Quand la Chine a accueilli les missionnaires, non, c'est pas encore l'heure. On a compté, écoutez ces chiffres, 2 millions de conversions en 60 ans. On essaie d'imaginer ça. Si on faisait ça en France, ce serait mort. Un miracle. Hein? 2 millions de conversions en 60 ans. Quand Mao Zedong a pris le pouvoir en Chine et a commencé à persécuter les chrétiens, persécuter l'Église, il y a eu 20 millions de conversions en 20 ans. L'Église dans les pays de l'Europe de l'Est, sous le communisme, est-ce qu'elles étaient plus fortes que les Églises en Europe occidentale ou moins fortes? Plus fortes, plus robustes. Le néopaganisme comprend ça, ce paradoxe. Il n'essaie pas de nous avoir par la persécution violente. Le néopaganisme essaie de nous avoir en nous infiltrant, notre pensée. Ça, c'est la tactique du serpent. Ça, c'est la tactique très subtile de Satan. Il dit, est-ce que vrai que Dieu a dit? Le nouveau paganisme représente l'alliance de trois des ennemis du théisme. L'humanisme, le polythéisme et le panthéisme. Bon, je veux dire, il y a en tout et pour tout 5 explications différentes de la vie. 5, c'est tout. L'athéisme, il n'y a pas de Dieu. L'humanisme, l'homme est Dieu. Le polythéisme, beaucoup de Dieu. Le panthéisme, tout est Dieu. Et le théisme, il y a un Dieu unique, personnel, transcendant. Ça, c'est les 5 possibilités. Le néopaganisme, c'est l'alliance de 3 de ses adversaires. Qu'est-ce qui va arriver au néopaganisme? Comment est-ce que Dieu a vaincu le vieux paganisme? Comment est-ce qu'il a fait? À la croix, la persécution. À la croix, Jésus a vaincu les forces du monde romain, les forces du monde grec et les forces du monde juif réunies, liguées ensemble pour crucifier le Christ. la victoire du paganisme, la plus grande victoire, on a réussi à crucifier le Fils de Dieu. C'était la plus grande défaite. La plus grande défaite du paganisme face à l'Église, c'était la persécution. Le sang des martyrs a vaincu la persécution. Que deviendra le néopaganisme? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu utilise le diable pour détruire le diable. Parce que le diable ne sait jamais comment il faut s'arrêter. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas, mais je peux vous promettre une chose. Un jour, le néopaganisme sera tout aussi mort que le vieux paganisme. Ça, je peux vous le promettre. Il nous reste 5 minutes, ou 10 minutes. Est-ce que vous me permettrez de vous dire quelque chose au sujet, c'est pas vraiment au sujet du bouddhisme, mais c'est dans cette ligne de pensée. Et c'est quelque chose qui vous sera utile. On a parlé des 4 nobles vérités. Ces 4 nobles vérités sont propres au bouddhisme. Mais le schéma, le modèle des 4 vérités est universel. C'est-à-dire chaque thérapeutique, psychologique, en médecine, chaque idéologie, chaque philosophie de vie, chaque religion a ces 4 nobles vérités. Je vous les donne. Le symptôme, le diagnostic, le pronostic et le traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mal est constaté. On voit les symptômes. Deuxièmement, le diagnostic. La cause du mal est identifiée. Troisièmement, pronostic, la guérison est définie. Et quatrièmement, le remède est proposé. Par exemple, Platon avait ces 4 nobles vérités. Le symptôme, c'est le vice. La cause du vice, c'est l'ignorance. La guérison, c'est la vertu. Et le moyen, le remède, c'est la connaissance. Vous suivez? Le marxisme a ses 4 nobles vérités. Symptôme, c'est la lutte des classes. La cause de cette maladie, c'est le capitalisme. La guérison, c'est le communisme, et le remède, c'est la révolution violente. La révolution. Le christianisme a ses 4 nobles vérités. Le symptôme, c'est la mort. La cause, c'est le péché. La guérison, c'est le salut, la vie éternelle. Le remède, c'est Jésus. J'ai pas inventé ça. C'est en Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors maintenant, je vous pose une question. De ces 4 vérités, ces 4 étapes, laquelle est la plus décisive? Je vais vous dire. C'est la deuxième. Si vous êtes malade, vous pouvez constater les symptômes vous-même. Vous n'allez pas chez le médecin pour qu'il vous dise ce que vous ressentez. Donc vous savez les symptômes. Pourquoi est-ce que vous allez chez le médecin? Pour savoir qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui provoque ces symptômes. Et c'est là le plus difficile pour le médecin. Il doit découvrir la source de vos souffrances. Bon, une fois qu'il a identifié, je ne sais pas, les microbes coupables. Bon, c'est assez facile. Moi, j'ai vu mon médecin faire ça. Il ouvre un bouquin. Il cherche le médecin, le médicament qui convient. Bon, une fois qu'on sait quelle est la maladie, il y a d'habitude un traitement déjà prescrit pour cela. Et donc, c'est au niveau du diagnostic, ce deuxième élément, que le christianisme et le bouddhisme sont aux antipodes l'un de l'autre. Et c'est de ça que je parlais. Jésus dit, nos désirs sont trop faibles. Le Bouddha dit, nos désirs sont trop forts pour les éliminer. Jésus dit, non, vos désirs sont trop faibles. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Des gens passionnés pour Dieu. Je ne veux pas par passion exubérante et irresponsable. C'est pas ce que je veux dire. La passion n'est pas nécessairement exubérante, mais elle est profonde, parce qu'elle va jusqu'à notre cœur. Nous avons besoin de chrétiens passionnés, de chrétiens pour qui la foi est la seule chose qui compte. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de faire de lui une priorité dans notre vie. Moi, ça me gêne quand on parle de priorité dans la vie. Vous savez pourquoi? Les priorités changent. Dieu peut être priorité numéro 3 aujourd'hui, demain, il est au numéro 8. C'est nous qui décidons les priorités. Quand Dieu vient dans notre vie, il est tout. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Ne, c'est pas fais de Dieu ton ta priorité numéro 3. Non, c'est pas ça que Dieu dit. C'est de ça qu'on a besoin. Il faut que nos désirs soient plus forts, nos bons désirs, notre désir de Dieu. Dans tout ça, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, dans toutes ces religions, moi je parle presque jamais aux athées, aux bouddhistes, aux musulmans, aux juifs, de ce que je vous ai dit aujourd'hui. L'apologétique, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que il faut que nous comprenions la pensée des gens que nous essayons d'évangéliser. Sinon, ce sera un dialogue de sourds. Ce que je dis à ces gens, c'est l'amour de Dieu dans le Christ. C'est ça qu'on dit, quelle que soit la façon de le dire. C'est le dessein de Dieu. C'est ça qui va convertir. Ces arguments sont en premier lieu pour nous. Pour nous. Ça nous donne une plus grande confiance. Écoutez, intellectuellement, les chrétiens... Non, je vais reformuler ça. Intellectuellement, la foi chrétienne, c'est un géant parmi les pygmées, parmi les idéologies aujourd'hui. Nous sommes en position de force intellectuellement. S'il vous plaît, commençons à agir en conséquence. On se laisse intimider simplement parce que la majorité a avalé les mensonges du diable. Et ça nous intimide. On n'ose pas. Et pourtant, nous avons toutes les armes. Nous avons tous les atouts. Je crois que c'est quelque chose que l'Église a besoin de faire. Le monde dit, allez dans votre église, restez entre les quatre murs, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Mais quand vous sortez, il faut faire semblant que Dieu n'existe pas, s'il vous plaît. Il faut parler comme si Dieu n'existait pas. C'est la loi de la laïcité. Non. On va accepter ce marché? Non, on ne va pas accepter ça. Jésus aurait accepté ce marché. Pierre, Paul, tous ces gens. Non, on peut pas. L'Église, en Europe, dans l'Occident, restera toujours faible jusqu'à ce qu'on arrive à être fier de l'Évangile. Et ça, c'est biblique. Dans l'Épître aux Philippiens, vous connaissez ce texte? Réjouissez-vous toujours, je dis toujours. Ça veut pas dire, oh là là, je suis toujours. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Le contraire de se réjouir dans le Seigneur, c'est de se laisser intimider par les adversaires. La vraie joie, c'est la fierté dans le Christ. La fierté dans l'Évangile. Une fierté qui ne se laisse pas réduire au silence. Et ça, c'est ça la vraie joie. On a parlé de la joie, on a parlé de la paix. La paix, c'est la possession, la connaissance de la vérité sur Dieu et ses intentions à notre égard. La joie, c'est la fierté dans cette connaissance, dans cette vérité. Nous portons un trésor en nous. Un trésor. C'est pas pour garder. Pour le dire. J'espère, on a fait 5 heures. Moi, je suis fatigué. Je sais pas si vous êtes fatigué. Moi, je suis un peu fatigué. Mais j'espère que ça vous aide à vous mettre dans l'esprit de l'autre, comprendre ce qu'il pense, et comme ça, ça vous aidera à placer un mot pour Jésus. Sans offenser inutilement, bon, il y aura des différences, c'est sûr. On ne peut pas les gommer. Mais on peut apprendre à... il faut que l'apologiste chrétien soit malin. Il n'est pas là pour gagner un débat. Il est là pour gagner une âme. Et c'est difficile, vraiment difficile de nos jours, de faire de l'évangélisation qui n'a pas un élément apologétique. Parce que la foi est critiquée de tous les côtés. Et on a besoin de défendre la foi. Donc l'apologétique fait partie de l'évangélisation. Pour moi, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est l'évangélisation. L'apologétique nous aide à faire cela plus d'une façon plus maligne, plus intelligente et surtout plus humaine. Donc, je vous demande de réfléchir sur ces choses et ensemble, on essaiera d'être de témoins plus efficaces et surtout plus courageux. Les témoins du Christ dans nos églises respectives. On fera ça ensemble. On livre le même combat. C'est pas un combat différent à Marseille ou à Lausanne ou à Genève. C'est le même combat. On a les mêmes alliés et les mêmes adversaires et le même chef. Donc voilà. J'espère que malgré la longueur de ce cours, que vous avez été quand même encouragé pour ça, par ça.